quand on regarde le parcours de Pascal Henrard, on réalise l'importance du fil conducteur, sa passion de l'écriture. Parfois scénariste, parfois auteur, parfois publicitaire, parfois blogueur, Pascal carbure aux mots. Il a même donné du côté jeunesse en réalisant plusieurs albums pour les tout-petits. Point de conversation avec le paternel de cette grande famille qui comprend La princesse Blabla, Les histoires de Justine et Juliette, Les aventures d'Auguste et Madame Coquelicot. Bon podcast.
Alors, je dis toujours que je gagne ma vie en écrivant. Et la plus grosse partie, évidemment, c'est d'écrire pour le marketing et la communication et la publicité. Mais j'écris des scénarios de documentaires de temps en temps et accessoirement, j'ai écrit aussi quelques livres essentiellement pour la jeunesse, mais aussi des livres comiques et puis même un livre sérieux sur le marketing de contenu.
Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire des livres pour les kids?
Alors, simplement, un jour, une après-midi, j'avais du temps à tuer et je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis à raconter l'histoire de la princesse Blabla. C'est mon premier livre pour enfants.
OK.
J'étais inspiré parce que j'avais une princesse Blabla dans mon entourage. Et en fait, pour faire une histoire courte, c'est sûr que c'est le hasard d'avoir écrit cette histoire et que ma blonde est dans l'édition et illustratrice. Elle avait donc illustré mon texte, si tu veux. Et puis on en avait fait des photocopies qu'on avait envoyées à mes neveux en Europe. Donc c'était un petit cadeau de Noël. Mais il y a une éditrice qui l'a vu traîner sur le bureau d'Hélène qui a dit « Ah tiens, c'est amusant cette histoire-là, ça pourrait faire un livre. » Donc, on l'a restructuré parce que ce n'était pas du tout structuré pour que ce soit imprimable sous forme de livre. Uh-huh. Et puis, c'est devenu mon premier livre.
Puis après ça, il y en a eu d'autres avec ta douce.
Oui, de fil en aiguille, j'en ai fait 4 avec ma blonde. Puis après, en fait, 5 même au total. Puis, il y a des éditeurs qui ont bien aimé ce que je faisais, qui trouvaient ça rigolo. Donc, de fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs, et pas qu'avec le même éditeur, si tu veux. Urtubiz aimait bien ce que je faisais, mais j'en ai fait pas mal avec Urtubiz, qui eux m'ont plus commandé des livres. Ils m'ont donné un briefing.
Okay.
J'ai fait 2 séries avec Urtubiz. La première, ils voulaient des livres pour des jeunes de 8 à 10 ans. J'ai leur proposé plusieurs idées. Donc, vraiment comme tu ferais un pitch, là, j'ai proposé 3-4 synopsis, je me souviens plus très bien, et ils ont choisi celui des petites jumelles qui s'appellent Justine et Juliette, les Gigi, et on a fait une série. Donc au départ, c'était 2, puis 4, puis 6, qui ont vraiment bien marché, ça, dans les écoles, dans les bibliothèques. Et puis, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, ils m'ont demandé, ils ont dit, oh, il n'y a pas beaucoup de livres pour les tout petits garçons, là, des livres pour des petits garçons de 2-3 ans. Alors j'aurais proposé Auguste fait de la construction, puis Auguste conduit un camion, avec un illustrateur belge.
Mais pareil, la commande était, juste pour bien comprendre jusqu'à quel point c'était un mandat pratiquement publicitaire, la commande, par exemple, pour les jeunes filles, tu savais déjà que fallait que tu parles de baguettes et de kimono, puis de copine valise, ou...
Non. C'est donc dans les Gigi, c'était juste d'écrire des livres pour des jeunes de 8-10 ans. Mm-hmm. Et j'ai commencé par le journal de Justine et Juliette, puis après Sushi, Baguette et Kimono. Et j'avais créé, si tu veux, une bible des personnages, un peu comme quand on fait une série télé.
Ouais.
Et on a fait les 2 premiers, ça a bien marché, on en a fait 2 autres. Après, ils ont décidé de changer le format parce que c'était plus pratique au niveau de l'impression. Donc les 2 derniers ont été plus petits. Puis ce qui est amusant, bon, ça n'a pas fait un méga succès comme India Desjardins, mais ça a quand même bien marché. Là. Je sais que quand j'allais au Salon du Livre, il y avait beaucoup de petites filles qui venaient et qui disaient « Ah, j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième. »
Fait que t'es devenu, par la force des choses, comme le Brad Pitt du conte pour enfants.
Non, pas ce point-là quand même. Hein. ça a bien marché. C'est sûr que j'ai pas non plus poussé ça parce que j'ai d'autres activités professionnelles qui m'occupent.
Ouais.
Visiter des écoles, c'est un truc qui marche vraiment bien pour les auteurs quand tu as la chance d'être dans des circuits parce que tu es payé pour visiter les écoles, mais j'en ai visité très peu parce que je suis occupé sur d'autres affaires et que c'est pas mon activité principale, donc j'ai pas poussé ça, mais ça a fonctionné correctement. Là,
Mais c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait d'aller plus creux là-dedans éventuellement quand je sais pas quoi? J'ai de la misère à te voir arrêter faire quelque chose de toute façon.
Ouais, ben c'est ça, c'est que ça marche bien mon boulot de concepteur, rédacteur, créateur de contenu, donc on peut pas tout faire non plus dans la vie. Hein. C'est vraiment chouette de faire des livres pour enfants, mais tu gagnes pas beaucoup ta vie avec ça. Hein.
Qu'est-ce que ça t'apporte, outre le fait que ça t'apporte pas d'argent?
Ah, mais c'est le plaisir, c'est vraiment le fun. D'abord, c'est sûr que j'ai aussi un petit peu évolué avec mes enfants, mais j'ai écrit des livres pour des tout petits quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont adultes, ils s'en foutent de mes livres. Mais voir les enfants qui ont plaisir, leur parler, leur faire le cadeau de « Ah, c'était écrit un livre !» Le bon vieux livre en papier, ça fonctionne encore super bien. Hein.
Ouais.
Puis il y a de la magie là, de leur parler, de les entendre commenter. Alors, un truc que j'ai fait, pas beaucoup, mais c'était vraiment chouette, c'est des ateliers dans des écoles où à partir, par exemple, pour des plus vieux de 10 ans, à partir de Justine et Juliette, on disait « Tiens, on va inventer une autre histoire.
Okay. »
Alors les enfants brainstormaient, ils lançaient des idées, on construisait l'histoire, eux faisaient des dessins. C'est vraiment génial à faire. Hein. C'est magique, puis ça te ramène les pieds sur terre.
Fait que toi, tu me dis que ton kid et ta fille ils ont suivi ta carrière. Ans, hein. Quel âge qu'ils avaient, tes enfants, quand tu as fait ton premier truc avec Hélène?
Princesse Blabla, mon fils, il avait 5-6 ans, puis ma fille, elle avait 8-9 ans.
Fait qu'il était-tu ton premier groupe cible?
C'était peut-être plus petit qu'eux, en fait, hein, Princesse Blabla. Mais ce qui était chouette aussi, c'est qu'ils donnaient leur avis. Là. Dans la série Princesse Blabla, Prince Dodo, Princesse Soussou, ils donnaient leur avis sur l'histoire, sur les dessins, parce que c'est ma blonde qui les a dessinés.
Ouais.
Ça c'était mignon, là, d'avoir leur opinion. Puis des fois, les enfants, ils voient toujours des trucs que toi, tu vois jamais.
Là. Ah oui, hein?
Dans les dessins, ou même dans l'histoire, il y a des fois des logiques là, qui comprennent ou que tu n'avais pas imaginé.
T'as pas un exemple?
C'était il y a longtemps.
Ah ouais.
Je me souviens, dans les dessins, à un moment donné, la princesse Blabla, elle ouvrait la bouche et elle souriait, puis on voyait sa glotte, puis là, les enfants, ils voyaient pas ce que c'était là-haut. Il a fallu changer le dessin de la bouche.
Too much information.
Ouais.
Ultimement, y a-t-il une grosse différence entre écrire de la pub et écrire pour des enfants?
Oh ben oui. Parce que d'abord, ton objectif n'est pas le même. Hein. C'est sûr que moi, j'écris pas dans l'objectif de faire quelque chose d'éducatif. J'écris des histoires que je trouve cute et puis...
Moi, je connais rien de cette industrie-là, mais est-ce que tout doit être éducatif selon ce que tu as pu percevoir, Adam? Ben, outre ce que tu fais, là, y a-tu comme une fixation passe-partoutesque de OK, mais il faut absolument apprendre quelque chose au-delà
de... À la télévision, oui.
OK.
À Télé-Québec, oui. Moi, j'ai la chance avec les éditeurs que j'ai eus. Non, ils étaient vraiment cool. Puis, je pense pas que j'ai eu de censure de quoi que ce soit ou de peut-être changer une fin ou quoi. C'est sûr qu'il y a un travail d'éditeur qui est vraiment intéressant parce qu'au moins, ils ont le recul puis le professionnalisme de ouais. t'amener ailleurs.
Ouais.
Mais dans Tom et Somnambule, l'histoire du petit frère des Gigi, le gamin, il est somnambule, c'est rigolo comme tout, mais à un moment donné, il fait pipi sur une bande dessinée au lieu d'aller faire pipi dans la toilette. ça n'a pas été censuré. Hein.
Quand tu dis que t'es, les éditeurs, grâce à leur professionnalisme, regardent ça et ils t'amenaient ailleurs, y avait-tu comme un peu trop du publicitaire qui était là puis t'as découvert des choses avec ce process-là? T'as découvert le craft de raconter des histoires pour des jeunes?
Ben c'est sûr qu'au niveau du sens de la formule, hein, de l'écriture, et vraiment là, c'est vraiment de la technique d'écriture, peut-être que des fois, j'étais trop dans le sens de la formule, dans le presque le slogan. Mm-hmm. Alors, ça fait de l'écriture qui est imagée, puis qui est punchée. Mais quand tu racontes une histoire, surtout pour enfants, t'as pas besoin d'avoir le sens de la formule, t'as besoin d'avoir le sens de l'histoire.
Ouais.
Puis c'est sûr que là, je me suis rendu compte aussi que quand t'as des correcteurs et des réviseurs qui ont des fois des tics de révision, par exemple, quand tu joues dans la répétition, dans ton écriture,
ouais.
Les réviseurs, ils n'aiment pas la répétition. Mais la répétition, ça peut être le fun quand t'écris une phrase qui se répète parce que ça parle d'accumulation, ben, t'as envie de faire un peu de style.
Ouais.
Puis là, bon, les réviseurs peuvent dire « Oh, mais là, tu répètes trois fois le même mot dans le même paragraphe. » Des fois, il faut un peu se défendre son style.
C'est-tu plus dur à défendre qu'en pub?
Ben, c'est en pub, t'as un client hein, qui paye en plus. Donc, tu joues plus le jeu, je dirais, d'accepter parce que c'est le client et c'est son produit à lui et c'est lui qui signe. Quand c'est moi qui signe un livre, je défends peut-être un peu plus mon texte.
Ah ouais.
Si ça a du sens, puis c'est toujours d'échanger aussi avec les éditeurs, c'est des professionnels de l'édition. Ils ont une expertise et un avis. Moi, je les écoute quand même beaucoup, j'ai beaucoup appris.
Ouais.
Mais quand j'avais à défendre quelque chose, je le défendais sans doute un peu plus que quand c'est avec un client publicitaire, parce que tu sais que c'est son produit à lui, puis avec l'expérience, tu sais que tu dois jouer le jeu du client.
Ça fait 2-3 ans qu'on se fait rincer les oreilles par le storytelling. Toi, tu as décidé de plonger dans le storytelling de base. Le fait de raconter des histoires pour des enfants, est-ce que ça a influencé le storytelling du spécialiste en contenu?
C'est une bonne question. En fait, je pense que ça a toujours été là. Parce que moi, je me définis vraiment comme quelqu'un qui essaye d'expliquer les choses de la façon le plus claire possible. Je suis un expert en rien, mais je suis un expert en communication. Donc, je raconte des histoires sur des produits, sur des marques, sur des choses. Donc, raconter une histoire pour enfants, c'est sûr, des fois, ça doit être un petit peu plus de base. Auguste fait de la construction, c'est très minimaliste dans l'histoire
et dans la
narration. Mais il y a un début, un milieu, une fin. On part de quelque part, on va quelque part. Quand il y a une série, il faut plus implanter les personnages au début, donc un peu plus de description de personnages pour planter le décor, planter les caractères. Dans Justine et Juliette, c'était rigolo parce que c'est deux jumelles identiques, mais qui ont des caractères différents. Donc, fallait pas que je me trompe. Là. Des fois, il fallait que je retourne en arrière pour me souvenir laquelle était plus sportive et laquelle était plus intellectuelle.
Ouais, on a toujours tendance à oublier, hein, sur le coup, on est content, mais si on ne prend pas en note, là...
Faut de la rigueur aussi. Hein.
Est-ce que les créateurs de contenu devraient s'inspirer des contes pour enfants pour mieux raconter leur contenu?
Moi, je pense que c'est dans la méthodologie de travail. C'est sûr que quand je me plongeais dans l'écriture d'une histoire, hein, c'est pas des livres super longs et complexes, hein, mais quand même, je me donner des heures ou même des journées entières où je me concentrais là-dessus. Puis c'est plus facile, évidemment, quand tu peux te concentrer, de garder le fil, d'avoir une unité dans tout ce que tu fais, d'être plongé dans les personnages et les caractères. Je sais que c'est pas évident quand tu travailles dans un environnement d'agence où tu es sollicité par mille petites affaires, de te concentrer sur une histoire complète. Et peut-être des fois, c'est ce qui manque, c'est le fil conducteur. Et à plus... au niveau, c'est la ligne éditoriale. Quand tu fais une série de 6 livres comme les Gigi, il y a une ligne éditoriale parce qu'il y a le caractère des personnages, il y a le ton, et comme j'étais le seul à l'écrire, c'est plus facile. Mais quand, pour une marque, tu as plusieurs rédacteurs ou journalistes ou scénaristes qui travaillent sur quelque chose, il faut qu'il y ait une vision globale, une unité de ton et de style visuel aussi. Tous les livres que j'ai faits, c'était toujours avec un ou une illustratrice qui faisait toute la série. Donc, le personnage restait le même. Mais quand tu travailles pour une marque puis tu as plusieurs photographes ou plusieurs illustrateurs, il faut garder un certain ton. Et dans ce sens-là, ça peut être une bonne leçon. D'ailleurs, quand je fais des formations de marketing de contenu, je prends toujours l'analogie avec les médias ou avec l'édition. C'est sur l'unification de la tonalité.
Quoi qu'Astérix, on peut-être pas compris, hein.
Astérix,
ouais.
Ça marchait pas mal, quand même.
Ouais, toi, t'as pas ça.
Le scénariste a disparu, quand Goscinny n'était plus là.
Non, mais c'est ça. Je veux dire, l'unité du ton était assez unique, pas grand monde peut faire du Goscinny.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, moi, j'ai une question, là. Toi, le marquis de Sade, tu tripes-tu dessus?
Pardon?
Le marquis de Sade.
Le marquis de Sade, oui, je sais, Justine et Julien.
T'as réussi à en passer une?
Pas du tout, je l'ai su après. J'aurais dû googler. En fait, la première histoire, elle s'appelait pas Justine et Juliette. Dans le pitch que j'avais fait, elle s'appelait, je me souviens plus. Ben, ils avaient deux noms rigolos, mais trop semblables.
Okay.
qui fait que c'est l'éditeur qui m'a dit ça va pas, c'est les enfants vont s'y perdre. Et elle, avec raison. Là, tu vois, j'avais mon petit côté publicitaire, c'était genre Élise, Elisa, ou je sais plus. Hein, bon, mais, ouais. Des prénoms qui se ressemblaient trop. Et là, l'éditeur m'a dit non, les enfants vont s'y perdre, faudrait proposer autre chose. Et j'ai fait une espèce de sondage d'enfants dans les classes de mes enfants, des prénoms assez courus, c'était Justine et Juliette. Puis après, bon, ben, personne chez l'éditeur
m'a non plus.
Ne m'a allumé là-dessus, puis c'est bien du temps après quelqu'un qui m'en a parlé. Effectivement. Donc, ouais, hasard.
Et ça arrive, ces choses-là.
Eh ouais.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!